Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, petite annonce avant de commencer le cours d'exégèse. Donc maintenant, grâce à l'aide d'un ami, nous avons la possibilité d'avoir la vidéo de ma messe du dimanche, chaque dimanche sur Internet. Donc vous l'aurez sur le site, mon site Internet YouTube. Vous pouvez y accéder aussi directement à partir du site Dame Marie. Sur la page d'accueil, en bas, il y a un lien qui permet d'accéder directement à la chaîne YouTube. Et là, vous aurez donc tous les dimanches, à peu près vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, la vidéo complète de la messe, vidéo et audio bien sûr, avec le sermon et tout. Le sermon sera en plus placé sur la chaîne internet, évidemment à chaque fois, en plus. Donc cela vous aidera pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès, hélas, à la Sainte Messe pendant le confinement, tout pour les prêtres qui malheureusement refusent l'assistance à ces messes ou parce que les fidèles ne peuvent pas venir à cause de la maréchaussée. Sur le cours d'exégèse, nous en sommes donc dans Saint Marc, l'évangile selon Saint Marc, au chapitre 11, au verset 15. Nous commençons maintenant les versets 15 à 18. Il vint ensuite à Jérusalem et Jésus, étant entré dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait pas que personne transportât aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en leur disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?» Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ayant entendu cela, les princes des prêtres et les scribes cherchaient un moyen de le faire mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'admiration au sujet de sa doctrine. Donc j'ai déjà expliqué la dernière fois un petit peu le sens de ce mot « temple », qui a différentes interprétations selon les pères. Ce temple qu'il nous faut respecter, qui est une maison de prière, c'est d'abord notre âme. Mais c'est aussi le temple, la chapelle de l'Église catholique. Et donc, s'il est important pour nous de maintenir l'état de grâce dans notre temple personnel, il faut aussi respecter le temple extérieur. Et donc, les pères utilisent également ce texte pour nous rappeler l'importance de la véritable dévotion dans la chapelle. Si nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement présent dans le tabernacle, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, il nous faut faire attention à notre tenue extérieure. On dit qu'on peut voir la foi d'un individu dans une chapelle simplement par la façon dont il fait le signe de croix en rentrant dans la chapelle ou sa manière de faire sa génuflexion. Il faut que l'acte extérieur corresponde à la dévotion intérieure. Donc ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Quand j'introduis le péché mortel dans mon âme, je transforme une maison de prière en une caverne de voleurs. Lorsque je manque de respect à l'intérieur de la chapelle, devant le Saint-Sacrement, je transforme de nouveau cet édifice, cette chapelle, en une caverne de voleurs. Je considère qu'elle est une caverne de voleurs. Donc attention à l'attitude extérieure qui est importante. Bien sûr, l'attitude intérieure est encore plus importante. Mais l'attitude extérieure aide à maintenir l'attitude intérieure. De même, par exemple, que la soutane du prêtre, qui est quelque chose d'externe, va aider le prêtre lui-même à se respecter lui-même, à se rappeler qu'il a un caractère sacerdotal, qu'il ne peut pas être effacé, et qu'il est un homme différent de tous les autres hommes, justement à cause de ce caractère sacerdotal. Et c'est la même chose pour les fidèles qui, en voyant la soutane, vont se rappeler l'autorité du prêtre et surtout la puissance du prêtre comme médecin des âmes. Alors, voyons un petit peu le commentaire des pères de l'Église sur ce sujet. Donc, nous sommes dans le fichier des chapitres 11 à 16 de Saint Marc, en bas de la page 3. Il est à croire, disent les pères, qu'on ne vendait et qu'on achetait dans le temple que les choses nécessaires au sacrifice. Si donc le Seigneur ne peut souffrir qu'on traite dans sa maison les affaires temporelles dont il est permis de s'occuper ailleurs, quel sera son courroux lorsqu'il verra s'accomplir dans les lieux qui lui sont consacrés des actes qui partout ailleurs sont des crimes? Donc en soi, ce n'est pas un péché, ce n'était pas un péché de vendre dans la cour du temple les objets, les choses nécessaires pour les sacrifices. Donc on vendait certainement là les animaux des sacrifices, l'ensemble des sacrifices, etc. Mais, encore une fois, ici, notre Seigneur Jésus-Christ fustige le caractère mercantile de ces vendeurs qui oubliaient le caractère sacré du lieu. C'est quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier que le caractère sacré, justement, de la liturgie. C'est pour cela que l'Église catholique a condamné, sous les peines les plus graves, ceux qui faisaient en quelque sorte du business, littéralement, avec les choses sacrées. Et celui, par exemple, qui vend les sacrements, ne peut échapper justement à cette peine de simonie. J'ai été très surpris de voir parfois des fidèles qui, après un baptême par exemple, ou un mariage, viennent me demander de façon innocente, « Monsieur l'abbé, combien est-ce que je vous dois ?» Et à chaque fois, je réponds la même chose, « Mais vous ne me devez rien du tout, monsieur, vous ne devez rien du tout, madame. » Parce que les sacrements sont gratuits dans l'Église catholique et je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit pour un baptême ou une confession ou un mariage. Donc encore une fois, jamais un prêtre ne peut demander de l'argent pour un baptême ou un mariage. Bon, si les gens veulent faire un don, ils le font, mais ils sont parfaitement libres et le prêtre ne peut rien manifester si ce don ne lui est pas fait. Bon, la seule exception, c'est quand des dépenses importantes ont été faites dans une occasion spéciale. Par exemple, si j'ai dû prendre, l'avion ou le train, faire des longues distances pour assurer un sacrement, il est évident qu'à ce moment-là, j'ai le droit de demander aux gens de m'aider à couvrir ces frais. Bon, je donne un exemple, je suis allé faire un mariage à l'île de la Réunion, la demande de personnes là-bas. Bon, ben quand je suis allé, avant même d'accepter, je dis écoutez, moi je veux bien aller faire ce mariage pour vous aider, parce que vous n'avez personne là-bas, mais je suis obligé de vous demander de me couvrir les frais d'avion, ce qui a été fait. Vous voyez, c'est pareil pour un sacrement de baptême. Mais il faut faire extrêmement attention. Je suis profondément choqué de voir parfois dans certaines chapelles, ça je l'ai vu de mes yeux vus. Par exemple, dans la chapelle, dans la sacristie de certaines maisons de la fraternité, où les gens de l'extérieur rentraient, de voir des panneaux qui indiquaient les tarifs des sacrements. Donc il y avait un panneau qui disait « pour le baptême, c'est tant, pour le mariage, c'est tant, pour un convoi funéraire, c'est tant ». Je ne vois pas comment on peut excuser le crime de simonie dans ce cas-là. Oui, donc attention, on ne peut jamais vendre un sacrement ou donner l'impression qu'on vend un sacrement. Alors, un autre point qui nécessite une explication, c'est les honoraires de messe. Les honoraires de messe, c'est un peu différent, même tout à fait différent. Lorsque vous demandez à un prêtre de célébrer une messe pour une intention particulière, la coutume consiste à donner un honoraire de messe, qui est d'ailleurs fixé, avant c'était fixé par les diocèses, un honoraire de messe déterminé. C'est le seul argent que le prêtre a le droit de garder une fois que la messe a été célébrée. Parce que c'est pas son salaire, il n'y a pas de salaire pour un prêtre, le prêtre n'est pas payé. Mais il a aussi des factures à payer et donc il a besoin de dons. Et les honoraires de messe représentent ces dons habituels. Donc tous les jours, je célèbre ma messe pour une intention déterminée qui m'a été demandée. Et là, les gens, en général, donnent un honoraire. Encore une fois, si par exemple quelqu'un m'a demandé une messe sans me donner d'honoraire, je dirais rien du tout. Maintenant, il est évident que si quelqu'un me demandait de dire un trentin, ça m'est arrivé une fois, quelqu'un m'a demandé un trentin de messe, donc 30 messes à la suite, sans interruption, ce qui est une grosse obligation pour le prêtre. Cette personne avait pensé pas me régler ce trentin. Donc là, j'ai quand même téléphoné pour dire, écoutez, madame, je m'excuse, je n'ai pas les moyens de vous offrir ce trentin parce que c'est avec l'argent de ces honoraires de messe que je vis. Hein. Oui, je pense qu'il faut faire bien attention à ces choses-là pour que les choses soient claires dans l'esprit des gens. Jamais, jamais associer les sacrements avec des histoires d'argent. Ça m'arrive parfois même, heureusement c'est rare, ça m'arrive parfois même après une confession ou un sacrement de ce genre, que les gens me demandent, Monsieur l'abbé, combien je vous dois? Je regarde en souriant en disant, vous devez 10 millions d'euros. C'est le prix d'un sacrement. Il me regarde évidemment avec les yeux ahuris, je leur explique, vous inquiétez pas, vous ne devez rien du tout, mais c'est pour vous expliquer qu'on ne peut pas valoriser un sacrement avec des valeurs monétaires, des valeurs d'argent, c'est absolument impossible. Vous voyez? Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, les quêtes. Ben, les quêtes, c'est pareil, ça fait partie des devoirs. C'est un commandement de l'Église, d'ailleurs, dans bien des cas, dans bien des diocèses, fait partie des devoirs des fidèles. Celui qui vit, qui travaille à l'autel, doit vivre de l'autel, nous dit notre Seigneur. Et donc, il est normal, dans toutes les chapelles, on fait en général la quête le dimanche et les fêtes d'obligation. Et les gens mettent ce qu'ils veulent. Et souvent, les gens me demandent, Monsieur l'abbé, combien je dois mettre à la quête? Quel est le pourcentage? J'ai toujours refusé de répondre à cette question en disant, je ne peux pas vous donner un pourcentage. C'est à chacun de faire en fonction de ce qu'il peut. Il y a des jours où il peut et des jours où il ne peut pas. Des jours où il peut beaucoup et des jours où il peut moins. Pensez simplement que vos prêtres, comme tout le monde, ont un loyer à payer, comme tout le monde a à manger au moins une fois par jour. Et ils ont des factures à payer, ils ont l'assurance à payer pour la voiture, il faut qu'ils changent la voiture pour pouvoir avoir une voiture en bon état de fonctionnement, il faut qu'ils aient besoin d'un téléphone, etc. Il est évident que ces prêtres, les fidèles ont le devoir d'aider les prêtres à vivre. Moi, j'ai connu deux cas de prêtres que je connais qui, ayant des chapelles, avec peut-être peu de générosité de la part des fidèles, ont été obligés de prendre un travail à mi-temps sur le côté pour pouvoir vivre. Bon, ça, c'est pas du tout normal. Et donc, il faut faire attention à ça. Éviter, encore une fois, tout ce qui peut sentir, même de loin, le crime de simonie. C'est pour cela que l'Église a donné une peine d'excommunication pour les simoniaques. Page 4, donc sur le polycopier, on continue. Comme le Saint-Esprit, c'est un texte de Saint Bède le Vénérable, comme le Saint-Esprit apparut sur la tête du Sauveur sous la forme d'une colombe, donc les dons de ce divin esprit sont justement figurés par les colombes. Donc on vend la colombe lorsqu'on donne pour de l'argent l'imposition des mains, par laquelle nous recevons l'Esprit Saint. Donc Jésus renverse les sièges de ceux qui vendent des colombes pour nous apprendre que ceux qui font trafic des grâces spirituelles sont privés du ministère sacerdotal, soit devant Dieu, soit devant les hommes. Et malheureusement, surtout à partir de la Renaissance, des hommes d'Église qui, hélas, vendaient les ordinations, des évêques qui se faisaient littéralement payer pour pouvoir ordonner un prêtre. C'est absolument scandaleux. Des choses comme ça ne doivent jamais, jamais exister. Et l'Église catholique utilisait des arguments très frappants, comme la peine d'excommunication publique, justement, pour sanctionner ceux qui vendaient les sacrements. Ceci doit nous aider à comprendre l'éminente honneur, l'éminente dignité d'une âme en état de grâce. Une âme en état de grâce, c'est comme, si vous voulez, un calice consacré, littéralement. De même qu'un calice consacré ne peut pas être touché par des mains indignes, par des mains non consacrées. Un laïc ne peut pas toucher un calice consacré. C'est pour cela que dans les chapelles, il y a des sacristains, par exemple, le sacristain met un gant blanc pour toucher le calice consacré. Quand il prépare les ornements, par exemple, justement à cause de la dignité de ces objets qui sont consacrés. Alors, si un calice consacré ne peut pas être touché par des mains d'un laïc sans utiliser des vêtements blancs, combien plus nous devons respecter la dignité de notre âme qui a été consacrée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui livre aux démons par le péché la grâce et l'innocence de son baptême, disent les pères, vend sa colombe et mérite pour cela d'être chassé du temple. Donc, attention encore une fois à avoir ce respect pour notre âme. Rappelez-vous ce que disait le Saint Curé d'Ars, il nous le disait. Il disait à ses fidèles, si à ma porte viennent frapper ensemble la très sainte Vierge Marie, mon ange gardien et un prêtre, eh bien je saluerai d'abord le prêtre parce qu'il est le ministre de Dieu. Ceci doit nous aider à comprendre l'éminente dignité des sacrements, parce que le prêtre est celui qui va donner, qui a le pouvoir de donner les sacrements. Pensons et réalisons que pour nettoyer une seule âme, il faut non pas une goutte du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais tout le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois, on entend des gens qui nous disent, Monsieur l'Abbé, notre Seigneur a dû offrir une goutte de son sang pour chaque âme pendant sa passion. C'est faux. Notre Seigneur Jésus-Christ a offert tout son sang pour chaque âme. Simplement pour purifier une âme du péché, il a fallu toutes les souffrances de la passion et tout le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, à tel point que lorsque il meurt sur la croix, après sa mort, lorsque le soldat va ouvrir le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ne sortent que quelques gouttes, un peu de sang et d'eau qui étaient contenues dans l'oreillette du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ a tout donné à cause du péché. Donc le plus grand des sacrilèges qu'on puisse commettre, c'est la profanation d'une chose consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez que vous ouvriez le tabernacle et que vous preniez les hosties consacrées pour les donner aux cochons. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous commettons une faute grave. Parce que notre âme est un tabernacle. C'est ce que veut dire cette phrase. Je répète cette phrase importante des pères. Celui qui livre aux démons par le péché la grâce et l'innocence de son baptême vend sa colombe et mérite pour cela d'être chassé du temple. On dit que l'ange gardien pleure toutes les larmes de son esprit, en quelque sorte, spirituellement parlant, le jour du premier péché mortel de son protégé. Ça peut être quelque chose de terrible. Lorsqu'on baptise un bébé, l'âme de ce bébé est comme un diamant qui resplendit en plein soleil. Parce qu'il n'y a rien qui bloque le travail de la grâce sanctifiante dans cette âme. Le bon Dieu a illuminé l'âme du bébé qui vient d'être baptisé par la foi, l'espérance et la charité. Pour cela qu'il y a des coutumes qui sont excellentes dans certaines familles. Ils s'habituent à faire la prière du soir en famille devant le berceau du nouveau-né. Et ils ont raison, parce que littéralement, vous avez des parents qui ont un nouveau-né à la maison qui vient d'être baptisé, ils ont un sacrement chez eux, puisque ce nouveau-né ne peut pas perdre la grâce sanctifiante tant qu'il est nouveau-né. Et cet enfant va garder son innocence jusqu'à son premier péché mortel. Alors quand est-ce qu'un enfant capable de commettre un premier péché mortel? Dès qu'il a l'âge de raison. Il y a des saints comme saint Alphonse de Ligorie qui ont vu un enfant de 5 ans en enfer. Pour bien nous montrer, hélas, qu'un enfant peut commettre un péché mortel. Imaginez la catastrophe sur le plan spirituel d'une âme qui commet son premier péché mortel, qui l'a pour la première fois de sa vie met le bon Dieu dehors. C'est ça le péché mortel. Le péché mortel, on ouvre la porte de notre âme, on met le bon Dieu dehors, et on dit au bon Dieu, mon Dieu, partez, j'ai pas besoin de vous en ce moment, j'ai besoin de faire autre chose, vous pourrez revenir plus tard. Mais craignons la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a cette réaction forte. Beaucoup de gens sont surpris par cette réaction de notre Seigneur. Notre Seigneur qui prend littéralement un fouet de corde pour chasser ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, et qui pourtant achetaient et vendaient des choses qui étaient utilisées pour les sacrifices dans le temple. Et cette phrase est forte. Vous avez transformé ma maison de prière en une caverne de voleurs. Caverne de voleurs. C'est terrible. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Vatican II. Ils ont transformé les chapelles en une caverne de voleurs. N'importe qui peut venir communier. Il y a des gens qui vivent en péché mortel jusqu'au cou, qui communient, qui prennent l'hostie consacrée dans leurs doigts, qui ne sont eux pas consacrés. Vous voyez, du n'importe quoi. Heureusement, d'un certain côté, que la nouvelle messe est certainement invalide et donc ils reçoivent en fait un bout de pain, mais enfin quand même. L'intention est là. Donc attention à cette profanation, faisons un examen de conscience en méditant ce texte de Saint Marc, un examen de conscience qui nous aide à comprendre la gravité du péché. Nous voyons ici une figure du jugement que notre Seigneur devait exercer plus tard en chassant de l'Église les pécheurs obstinés, en leur interdisant à tout jamais de revenir troubler l'Église par les châtiments éternels dont il les frappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église a le pouvoir d'interdire même l'entrée du temple catholique, dans certains cas d'excommunication. Une personne excommuniée ne peut plus participer au sacrement. Personne excommuniée, surtout une excommunication vitandi, comme on dit en latin, c'est-à-dire de gens qu'il va falloir éviter, ne peut pas rentrer dans le temple. C'est absolument impossible. Parce que ce serait une profanation du temple. Et pour nous rappeler la gravité de la peine d'excommunication, rappelez-vous Saint Ambroise qui interdit l'entrée du temple à Milan, de son temple catholique, de l'église catholique, à l'empereur qui, dans un moment de colère, avait fait exterminer toute une légion romaine à Thessalonique. Pour le punir, il lui a interdit l'entrée du temple. Et l'empereur a dit à Saint Ambroise, mais David aussi a péché, pourtant Dieu lui a pardonné. Et Saint Ambroise de répondre, si vous avez imité David par son péché, si vous avez imité David par son péché, imitez David maintenant par son repentir. Et il lui a interdit, il lui a donné une pénitence publique à faire. Il lui a interdit l'entrée du temple sacré, de l'église, pendant un temps considérable. Et l'empereur, je crois que c'était Valentinien, si mes souvenirs sont exacts, l'empereur Valentinien, avec humilité, a accepté cette punition pour rattraper justement le scandale public qui avait été commis. Donc attention à ces peines d'excommunication qui sont extrêmement importantes. Et une des peines d'excommunication, elle est justement celle qui consiste à excommunier ceux qui profanent le très saint sacrement. Bon, strictement parlant, on parle là d'une profanation publique, visible. Bon, mais en fait, à chaque fois que je communie un tas de péchés mortels, je profane le très saint sacrement. Bon, sauf que c'est public, que ce n'est pas public, parce que c'est dans le secret du cœur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de peine d'excommunication, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Si une personne commet un tas de péchés mortels, elle commet un péché épouvantable de sacrilège. La profanation du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y a pas de peine d'excommunication pour cela. Contrairement à une profanation publique du Saint-Sacrement, si quelqu'un viole la porte du tabernacle pour profaner les hosties consacrées dans le ciboire, est évident, dans ce cas-là, oui, il y a peine d'excommunication. Quant au péché, disent les pères, qui se glissent dans les cœurs des fidèles, la componction dont Dieu est l'auteur les efface et la grâce divine les préserve de toute rechute. Donc avant, lorsqu'il y avait une personne qui était publiquement excommuniée, il fallait relever cette excommunication de façon littéralement publique pour qu'une réparation publique répare le péché public. Il n'était dans le temple qu'à cette fin de persécuter extérieurement ceux qui ne donnaient pas ou de faire mourir spirituellement ceux qui donnaient. Parce que disent les pères, donc l'âme et la conscience des fidèles sont aussi le temple et la maison de Dieu. Lorsqu'elle donne naissance à des pensées coupables et nuisibles au prochain, ces pensées sont comme des voleurs dans une caverne. Donc, de même qu'un voleur s'introduit subrepticement dans une maison pour voler le contenu de la maison, de la même façon, le voleur spirituel qui est le démon cherche à rentrer dans une âme pour profaner l'âme par le péché. Et il veut persécuter cette âme pour l'empêcher d'aller s'abriter dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, car le plus grand malheur qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'avoir perdu la grâce du bon Dieu par le péché mortel. Rappelez-vous, la mère de Saint Louis, Sainte Blanche de Castille, qui disait à son fils: je préférerais, beau fils, vous savoir mort à mes pieds que savoir que vous avez commis un péché mortel. Et Saint Louis n'a jamais oublié la leçon. Donc le cœur des fidèles devient ainsi une caverne de voleurs lorsqu'il abandonne la simplicité qui est le caractère propre de la sainteté pour se livrer à des actes préjudiciables au prochain. De même que certains actes de péché public dans une maison de Dieu, une chapelle, entraînent dans certains cas l'interdit sur la chapelle. Il fallait purifier littéralement la chapelle. Lorsque des actes de profanation avaient été faits dans une chapelle, l'évêque pouvait jeter l'interdit sur la chapelle jusqu'à ce que la réparation ait été faite. De la même façon, si nous profanons notre âme par le péché mortel, eh bien, il faut aussi réparer cette profanation par une sérieuse confession pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse reprendre possession de son royaume. Donc cette réaction, disent les pères, de notre Seigneur, très forte, doit nous aider à comprendre le respect que nous devons avoir pour nos églises qui abritent le Saint-Sacrement, et on peut rajouter le respect que nous devons avoir aussi pour nos âmes qui sont le temple du Saint-Esprit. Notre âme est le temple du Saint-Esprit, c'est la grandeur du baptême. On ne réalise pas cela. Quand je baptise les petits bébés, j'explique aux familles. Des mots un peu choisis pour expliquer, parce qu'ils ne choquent pas. Je dis, on ne réalise pas quand on voit un petit bébé tout sourire là, qui arrive pour être baptisé dans les mains de sa marraine ou dans les mains de sa maman. On ne considère pas, on ne comprend pas que cet enfant appartient au démon. Le démon est littéralement propriétaire de l'âme de ce bébé avant le baptême. Et au moment précis où l'eau du baptême coule sur le front de l'enfant, quand le prêtre prononce les paroles sacramentelles, la forme du sacrement de baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a une espèce de tornade qui envahit l'âme pour chasser le démon, nettoyer d'un seul coup toute la place, toutes les immondices de la place que que le démon y avait placée, et l'âme devient le joyau du Saint-Esprit. C'est pour cela que dans l'Antiquité chrétienne, lorsque les gens avaient une foi forte, mais même au Moyen Âge, c'était encore comme ça, dans beaucoup de familles, les mamans, les parents, on n'embrassait pas leur enfant avant le baptême. Ils attendaient que l'enfant soit baptisé, parce qu'ils avaient compris que tant que l'enfant n'était pas baptisé, eh bien l'enfant appartenait au démon. Et donc ils attendaient le baptême avant d'embrasser l'enfant et se rattraper après le baptême. Et pour cela que l'Église a toujours conseillé de baptiser l'enfant le plus vite possible. Avant, lorsqu'il y avait des prêtres partout, dans les petits villages, il y avait un prêtre, eh bien, l'enfant était baptisé le jour même du baptême. La maman n'attendait même pas d'être sortie de ses couches pour baptiser l'enfant. Dès que l'enfant était né, les enfants naissaient à la maison avec une sage-femme, une vieille femme du village qui venait aider la maman pour la naissance. Et dès que l'enfant était né, le papa venait prendre l'enfant, le rouler dans une couverture et l'amener tout de suite à la chapelle pour qu'il soit baptisé par le curé. De même que une mère de famille ne va pas attendre des jours et des jours avant de nourrir son enfant, elle va lui donner le sein tout de suite pour le nourrir de son lait, pour nourrir le corps de ce bébé de la même façon. Il est encore bien plus important pour des parents de penser à nourrir leur bébé, l'âme de leur bébé le plus vite possible. C'est un véritable scandale de voir parfois des fidèles, mais qui attendent parfois pendant des jours et des jours avant de faire baptiser l'enfant, sous prétexte qu'ils veulent absolument que toute la famille soit là. C'est pour cela que l'Église, en cas d'empêchement d'un parrain ou d'une marraine qui ont été choisis par la famille, le parrain ne peut pas venir, on peut prendre n'importe qui pour représenter le parrain. C'est un baptême avec ce qu'on appelle une proxy. Une proxy, c'est quelqu'un qui prend la place du baptême. Bien que le parrain choisi par la famille sera celui dont le nom sera inscrit sur le registre. Et il est important de comprendre ces choses-là d'augmenter de nouveau notre foi. Malheureusement, notre foi aujourd'hui, pour la plupart de nous, d'entre nous, la foi est devenue faible. Les gens ont encore la foi, mais une foi de plus en plus faible, parce que justement tous ces signes extérieurs de la foi ont disparu. Donc notre âme est comme une église qui abrite le Saint-Sacrement. Une âme en état de grâce, c'est le Saint-Sacrement dans l'âme. Donc cela doit nous expliquer, nous faire comprendre la gravité de la réaction de notre Seigneur. Vous avez transformé une caverne, une maison de prière en une caverne de voleurs. C'est un des crimes les plus graves que l'on puisse commettre. C'est pour cela que la communion sacrilège, un sacrilège c'est quoi? C'est la profanation d'une chose divine consacrée à Dieu, c'est ça le sacrilège. La communion en état de péché mortel, se confesser de façon sacrilège en cachant volontairement un péché grave par exemple, c'est la profanation d'une âme. C'est la profanation d'une âme, attention. Nous avançons, Saint Marc chapitre 11, versets 19 à 26. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Et le matin, en passant, les apôtres virent le figuier desséché jusqu'à la racine. Et Pierre, se ressouvenant, lui dit, Maître, voici que le figuier que vous avez maudit s'est desséché. Jésus, prenant la parole, leur dit, Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'hésite pas dans son cœur, mais s'il croit que tout ce qu'il aura dit arrivera, il le verra arriver. C'est pourquoi je vous le dis, quoi que ce soit que vous demandiez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous arrivera. Et lorsque vous tiendrez debout pour prier, si vous avez fait quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos péchés. Donc, notre Seigneur ici va nous parler des conséquences de la vertu de foi. Encore une fois, beaucoup de choses se sont perdues. Il fallait voir la foi des premiers chrétiens, ce qui était extraordinaire. Malheureusement, nous avons une foi de plus en plus faible parce que la foi s'est refroidie en général chez les chrétiens. Et Dieu sait si aujourd'hui nous aurions besoin de manifester notre foi, pas simplement par l'état de grâce dans notre cœur, mais aussi de façon extérieure. Il faudrait que tous les chrétiens puissent, surtout aujourd'hui plus que jamais, manifester leur foi personnelle par leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, leur façon de vivre en famille, l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, en famille, le lieu de vacances choisi pour la famille, le comportement dans les milieux professionnels, etc. J'ai connu des cas comme ça, des cas magnifiques de chrétiens qui vivaient dans des bureaux complètement paganisés, littéralement, et qui arrivaient à vivre comme des catholiques. Ce n'est pas dire qu'ils faisaient des signes de croix toutes les 5 minutes. Ce n'est pas du tout ce que vous demande le bon Dieu. Mais dans leur comportement, dans leur façon de se comporter, ils témoignaient la foi catholique. Je me rappelle cette jeune fille qui était une de mes fidèles quand j'étais à Lille, qui était à l'université Lille 2 ou Lille 3, je ne sais plus, à Lille, et qui était la seule jeune fille dans toute l'université qui était habillée correctement. La seule qui était en robe, c'était elle, toute seule. Et celle qui me l'a dit, mais qu'une fois, elle s'est fait féliciter par un jeune musulman, qui était aussi à l'université, pourtant c'est un musulman, hein, un jeune musulman qui est venu la féliciter. Et qui lui a dit, ça fait plaisir de voir une femme qui est habillée comme une femme, et je voudrais savoir pourquoi vous êtes comme ça. Et elle a répondu, parce que je suis catholique pratiquante. Et les musulmans lui disent, ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Et là, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour nous rappeler justement cette nécessité de ne pas scandaliser. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, malheur par qui le scandale arrive. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ce passage. Donc, ils nous rappellent la nécessité de manifester notre foi. D'où l'importance, une parenthèse que je rouvre de nouveau, d'où l'importance de la soutane. Plus que jamais aujourd'hui, combien de fois j'ai vu des gens que je ne connais pas, des gens qui ne sont peut-être même pas d'ailleurs catholiques pratiquants, qui viennent me voir dans un grand magasin parce que je suis en soutane. Monsieur l'abbé, ou mon père, ou parfois même monsieur, merci pour la soutane. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, une dame comme ça, je ne connaissais pas, est venue me serrer les mains avec effusion. Merci, mon père, pour la soutane. Et puis, elle est partie. Elle est partie. Et il m'est arrivé plusieurs fois comme ça de confesser à l'extérieur des gens qui venaient attirés par la soutane. La soutane a un effet surnaturel, extraordinaire pour ouvrir les portes des cœurs. C'est pour ça que lorsqu'un curé moderne me dit, en se moquant de ma soutane, en me disant, mais mon père, pourquoi vous portez la soutane? C'est ridicule, ça vous coupe de tous les gens. Je garde droit dans les yeux, je dis toujours la même chose. Monsieur l'abbé, on voit que vous l'avez jamais portée, parce que si vous l'aviez portée, cette soutane, vous diriez pas des bêtises plus grosses que vous. Sachez que la soutane n'a jamais coupé les gens du prêtre, mais au contraire, attire comme l'aimant attire la limaille de fer. Je suis parti, t'es pas content. Alors voilà ce que disent les pères en bas de la page 4 sur le polycopier. Le Sauveur, c'est un texte de Saint Jérôme. Le Sauveur laisse après lui les ténèbres dans les cœurs des Juifs et comme le soleil, il abandonne cette ville pour aller en éclairer une autre plus soumise et plus obéissante. C'est le sens de ses paroles, le soir étant venu, ce verset 19. Le soir fut venu, il sortit de la ville. Donc, le soleil se couche et il se lève, la lumière qui est enlevée aux scribes brille sur les apôtres. Il sortit de la ville, c'est-à-dire il quitte. L'âme indigne de lui. Quand une âme est indigne de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va quitter cette âme. Lorsqu'une âme ne se préoccupe pas du bon Dieu, lorsque l'âme dit au bon Dieu, écoutez, actuellement vous me gênez par votre présence dans mon âme, alors allez faire un tour. Voilà, prenez la porte et partez. Parce que j'ai d'autres choses à faire actuellement et je ne veux pas de vous dans mon âme parce que ça fait un petit peu désordre d'avoir le bon Dieu dans une âme. Alors vous comprenez, à cause de ma fonction professionnelle ou de certaines activités sociales, s'il vous plaît, partez, quittez. Je vous rappellerai dans quelques jours ou dans quelques minutes. Qu'est-ce que fait le bon Dieu dans un cas comme ça? Il obéit, il s'en va. Il s'en va. Mais il n'est pas obligé de revenir. Craignez la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Il n'est pas obligé de revenir. Et lorsqu'on a mis le bon Dieu dehors comme ça, il faut avoir l'humilité de se mettre à genoux bien profondément pour demander pardon au bon Dieu, le supplier de revenir. Le bon Dieu reviendra, à condition qu'on ait suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'on l'a gravement offensé. Et donc Jésus qui sort de la ville représente notre Seigneur Jésus-Christ qui quitte les scribes et les pharisiens qui ne veulent pas s'occuper du bon Dieu. Et qui va vers d'autres personnes. Le bon Dieu va, après sa résurrection, va littéralement abandonner le peuple juif pour les prendre au mot. Parce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Et le bon Dieu va les prendre au mot. Vous voulez que mon sang retombe sur vous? Eh bien, il va retomber sur vous. Et il va y avoir la destruction de la ville de Jérusalem avec plus d'un million de morts. Donc, quel est le sens aussi de ce figuier qui avait été desséché par notre Seigneur, alors que pourtant ce n'était pas le temps des figues. Notre Seigneur s'approche du figuier, on a déjà vu ce texte, et puis il cherche des figues, il ne trouve pas de figues pour étancher sa faim ou sa soif, et il va maudire le figuier, alors que pourtant ce n'était pas le temps des figues. Et voilà ce que disent les pères, en bas de la page 4 sur le polycopier, ce figuier desséché jusque dans ses racines, c'est la synagogue. À partir de Caïn et de tous les autres à qui on redemande le sang d'Abel et de tous les justes jusqu'à Zacharie. Donc, la synagogue devient infertile alors que la synagogue était fertile dans l'Ancien Testament. La synagogue était, attention, le lieu de culte normal pour les Juifs de l'Ancien Testament avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre comme Messie. Mais une fois que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, pour prêcher l'évangile du salut, après que le voile du temple se fût déchiré de haut en bas, la synagogue devient infertile, devient caduque. Et de même qu'on pouvait aller dans une synagogue avant notre Seigneur Jésus-Christ pour y faire ses prières, de façon pour honorer Dieu, ces mêmes prières après l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvaient plus honorer Dieu, au contraire, elles déshonoraient Dieu. Parce que la synagogue est en quelque sorte devenue inutile à ce moment-là, remplacée par le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nouveau peuple élu, le peuple catholique, va remplacer l'ancien peuple élu. C'est la substitution, justement, qu'il ne faut pas avoir peur de prêcher aujourd'hui à temps et à contre-temps. Nous passons à la page 5 sur le polycopier. D'autres commentaires des pères sur ce figuier desséché. Pierre reconnaît cette racine desséchée, arrachée de terre, à laquelle succède l'olivier choisi de Dieu, et aussi remarquable par sa beauté, par sa fécondité. Donc la synagogue représente cet arbre qui est en train de mourir, qui est déjà mort, le figuier mort ou mourant, et qui va être remplacé par un olivier ou un cèdre plein de force, plein de vitalité, qui représente l'Église catholique. Et Pierre se ressouvint à ce moment-là de la parole du Christ qui lui avait dit, elle lui dit, Maître, voyez comme le figuier que vous avez maudit est devenu sec. C'est quelque chose de terrible d'être maudit de Dieu. Bien, le bon Dieu, au ciel, a maudit, si vous voulez, de même que notre Seigneur Jésus-Christ, on voit très bien, va maudire les idolâtres, ceux qui adorent de faux dieux. Il va être extrêmement dur avec eux, avec raison, parce que justement Dieu ne peut pas supporter de partager sa gloire avec des fausses religions. De la même façon, si vous voulez, Dieu va maudire tous ceux qui refusent la résurrection, qui refusent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, honorer des faux dieux est quelque chose d'épouvantable. Ça a toujours été quelque chose d'épouvantable. Et encore plus aujourd'hui que notre Seigneur Jésus-Christ s'est annoncé au monde. Pour ça, Monsieur Bergoglio à Rome, qui va honorer publiquement, adorer publiquement l'idole de Pachamama de l'Amazonie, a commis un scandale épouvantable parce que c'est l'adoration publique d'un faux dieu. Donc, il ne peut y avoir, rappelez-vous, attention, c'est l'enseignement de l'Église catholique, il ne peut y avoir de valeur de salut dans une fausse religion. C'est impossible. Absolument impossible. Même strictement parlant, dans une fausse religion qui peut avoir encore les sacrements valides. L'Église orthodoxe, par exemple, a des sacrements valides parce que le sacerdoce orthodoxe est encore valide. Donc, si vous rentrez dans une Église orthodoxe, il y a présence réelle. Si vous. Un baptême orthodoxe est valide, la messe orthodoxe est valide, est-ce qu'on a le droit d'y assister pour autant? Non, parce que c'est une religion schismatique. Tous les sacrements de l'Église orthodoxe sont valides, sauf le mariage. Les mariages orthodoxes sont invalides parce que les orthodoxes n'acceptent pas l'indissolubilité du mariage. Ils acceptent trois divorces en général, trois remariages. Et donc, cela rend tout leur mariage absolument invalide dans la mesure où les mariés reconnaissent le droit au divorce. Qui a dit droit au divorce rend le contrat matrimonial invalide. Pour qu'un contrat matrimonial soit valide, devant Dieu, il faut trois conditions, rappelez-vous. Il faut l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants. L'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme et une femme. On n'accepte pas une tierce personne, d'accord, dans l'union conjugale. L'indissolubilité, ça veut dire que cette union conjugale est une union jusqu'à la mort. Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques. C'est absolument impossible. Il faut rappeler ces choses-là à M. Bergoglio et à la fraternité sacerdotale Saint-Pulice qui se permet de prétendre, qui se permet de faire annuler des mariages. Mariage ratifié, consommé. Dieu lui-même ne peut pas invalider un mariage de ce genre. C'est absolument impossible. On continue avec un texte de Saint Jean Chrysostome. Cet étonnement de Pierre et des autres disciples prouve que leur foi n'était pas encore parfaite. Car ce n'était point là pour Dieu un bien grand miracle que d'avoir maudit ce figuier. Les apôtres ne connaissaient pas encore toute l'étendue de la puissance de Dieu et leur ignorance les jette dans l'admiration. Donc admirons ici la miséricorde de Dieu qui nous communique, lorsque nous approchons de lui par la foi, le pouvoir de faire des miracles qu'il tient de sa nature, pouvoir qui va jusqu'à transporter les montagnes. Donc tous ces miracles ici dont parle notre Seigneur, d'abord le miracle qu'il vient de faire du figuier, ensuite il va expliquer que si on a la foi, gros comme un grain de sénevé, on pourra demander une montagne de se déplacer. Et c'est quelque chose, encore une fois, de très important à comprendre. Donc de même que Dieu a le pouvoir de maudire un figuier et de le dessécher, Dieu a également le pouvoir inverse. Il a le pouvoir de parler à un figuier desséché et de lui rendre la vie, de reverdir les feuilles. Imaginez un figuier qui est à moitié mort ou qui est même complètement mort. Dieu a le pouvoir de redonner la vie à ce figuier qui va se remettre à avoir des feuilles, des fleurs et des fruits. Eh bien, ce figuier desséché représente l'âme qui a abandonné le bon Dieu. Donc, de même que Dieu peut dessécher une âme qu'il a abandonnée par le péché mortel, Dieu quitte cette âme et l'âme se retrouve toute seule dans son malheur, dans sa misère. Mais Dieu a le pouvoir inverse également lorsqu'il voit que cette âme qui répond à la grâce, aux grâces actuelles que Dieu lui donne dans sa miséricorde, s'il voit que cette âme répond à cette grâce actuelle et regrette du fond du cœur son péché, son offense, Dieu peut revenir dans cette âme et redonner une vie à cette âme. Il va redonner la vigueur à cette âme, une vie surnaturelle. L'âme va se couvrir de nouveau de feuilles vertes, de fleurs et de fruits. Donc il n'est jamais, jamais trop tard pour revenir vers le bon Dieu. Rappelez-vous l'exemple du bon larron. Il a attendu le dernier moment, c'est moins qu'on puisse dire. Il s'est converti à la fumée des cierges, celui-là, juste avant de mourir. Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. C'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Et si son voisin, Gestas, avait fait la même chose que Saint Dismas, il y aurait ainsi un Saint Gestas dans le martyrologe. Or, il n'y a qu'un des deux larrons qui s'est sauvé. Saint Dismas, il est canonisé par l'Église. En fait, sa fête est au 25 mars. Parce que la tradition nous dit que c'est un 25 mars que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix à Jérusalem. Et donc, puisque le bon larron est mort quelques minutes après notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort également le 25 mars. C'est pour ça qu'on fête son entrée au ciel le 25 mars. Et ça c'est Saint Dismas. Gestas, au contraire, n'a pas cru en la miséricorde du bon Dieu. Il n'a pas fait un acte de foi. Lui, il n'a pas dit la même chose. Et il va être damné. Bon, un peu le secret du bon Dieu. Mais vraisemblablement, Gestas ne s'est pas converti. Enfin, apparemment, il ne s'est pas converti, en tout cas. C'est pour ça qu'il n'y a que deux personnes que l'Église met de façon certaine en enfer. Judas, bien sûr, à cause de la phrase de notre Seigneur, il aurait mieux fallu pour cet homme qui ne fut point né. Également, Caïn, parce qu'il a tué son frère Abel. Et on peut dire aussi Gestas, parce que justement, il a refusé la grâce du bon Dieu, alors qu'il est mort à quelques mètres du Rédempteur, qui mourait pour lui pourtant. Donc, admirons ici cette miséricorde du bon Dieu. Et l'Église cite l'exemple de Saint Grégoire de Césarée, néo-Césarée, qui obtient de Dieu par ses prières qu'une montagne lui laissa autant de place qu'il lui fallait pour la construction d'une église. Il manquait un peu de place pour faire l'église, et Saint Grégoire, l'évêque, est venu se mettre à genoux, passer toute la nuit en prière sur le terre-plein qui avait été préparé pour l'église, qui était trop court, trop petit. Et donc il a passé toute la nuit en prière, et le bon Dieu a fait un miracle et a envoyé ce pan de montagne qui était nécessaire dans la mer pour permettre la construction de l'église. Le Sauveur donc n'a point desséché le figuier pour lui-même, mais comme signe de la stérilité dont il allait frapper Jérusalem, et tout à la fois de sa puissance. Or, c'est dans le même sens que l'on doit entendre la promesse qui a pour objet le déplacement d'une montagne, bien qu'un prodige de ce genre ne soit pas impossible à la puissance de Dieu. Donc, dans le cas de Saint Grégoire de Néo-Césarée, le miracle s'est fait, mais ce miracle dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir que si on a la foi, on pourrait déplacer des montagnes, représente la toute-puissance du bon Dieu dans une âme. Si Dieu est capable de déplacer une montagne, il est capable de déplacer une montagne dans une âme. Le péché qui envahit l'âme, le péché mortel dans une âme, c'est comme une montagne qui est devant la porte, qui nous empêche de sortir ou qui empêche de rentrer, parce qu'il y a une montagne, un énorme rocher de plusieurs dizaines de tonnes devant la porte de la maison. Plus personne ne peut rentrer dans la maison, plus personne ne peut en sortir. Bon, et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Par l'absolution sacerdotale, au moment précis où le prêtre donne l'absolution à cette âme qui est en état de péché mortel, eh bien, littéralement, le bon Dieu va dynamiter le rocher qui va disparaître en petits morceaux. Et la porte peut de nouveau s'ouvrir, les gens peuvent quitter la maison et rentrer dans la maison. C'est ce qui se passe par la confession. C'est vrai que la confession, quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand c'est très net pendant les exercices de Saint-Ignace de Loyola. L'exercice de Saint-Ignace de Loyola, où on voit justement comment, pendant ces exercices, des gens qui ne sont pas confessés, parfois pendant des années, eh bien, retrouvent la grâce du bon Dieu. Et c'est comme si des rochers énormes qui avaient été amoncelés devant la porte de la maison disparaissent d'un seul coup. C'est ça qu'il faut protéger nos âmes. Pas s'étonner si le démon fait des prodiges pour essayer de détruire les âmes catholiques. Le but du démon, c'est ça, la damnation du plus grand nombre. C'est la fin de la révolution. La cause finale de la révolution, c'est la damnation du plus grand monde, du plus grand nombre. J'en profite parce que j'ai oublié de le dire au début de ce cours, de vous rappeler que j'ai maintenant mis sur le site internet, et c'est également sur YouTube, sur la chaîne Dame Marie, j'ai mis maintenant, il y a, je crois, au moment où je fais ce cours le 6 avril, je rappelle donc que j'ai placé sur le site, la chaîne internet et sur la chaîne YouTube, j'ai placé des conférences qui expliquent l'œuvre magistrale de Mgr Gaume sur justement la révolution. Actuellement, au moment où j'écris, il y a je crois 18 conférences, chacune d'une heure et demie. Je n'ai pas encore fait la moitié de l'ouvrage, qui est un ouvrage en 12 volumes, un ouvrage énorme, avec des phrases extraordinaires de Mgr Gaume. Écrite pourtant en 1856, qui n'ont pas pris une ride, qui explique très bien comment justement le démon du paganisme est rentré dans les esprits des prêtres. D'abord par le paganisme de la Renaissance, l'esprit païen de la Renaissance, et ensuite par le protestantisme, puis la franc-maçonnerie et la Révolution française. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui ont le temps, d'étudier ces choses-là, surtout les gens qui sont confinés, qui ne peuvent pas travailler actuellement, mais qui travaillent à la maison avec Internet, justement, pour se former l'intelligence. Donc Dieu peut tout, et s'il peut déplacer une montagne, il peut déplacer la montagne du péché dans une âme. D'accord ? Et cette stérilité dont il va frapper Jérusalem annonce justement, est représentée par l'empereur Titus, le fils de l'empereur romain en fait. Titus qui vient au nom de son père, empereur, ou de son frère qui était empereur, et son père était aussi empereur, les deux. Et actuellement c'était au temps de Titus, quand il est venu faire le siège autour de Jérusalem, c'était son frère qui était empereur. Et il vient faire le siège de la ville de Jérusalem, qui allait être frappée de stérilité à tel point que la ville va être complètement détruite, qui va passer la charrue sur la ville, pour bien montrer justement la punition du peuple déicide. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé, qu'un jour viendrait, on entourerait la ville de Jérusalem, et que Jérusalem serait détruite parce que elle n'a pas écouté la voix du Seigneur qui pourtant venait comme une poule pour s'occuper de ses petits, et on n'a pas voulu écouter, et voilà les conséquences. Et c'est la même chose pour nous, hein. La même chose pour nous. Il ne faut pas oublier, mes bien chers frères, que cette crise du coronavirus, même si ce coronavirus peut être utilisé heureusement par certains pour se convertir, et c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est aussi un châtiment terrible de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, utilise quelque chose de mauvais comme les morts par le coronavirus pour aider certaines personnes à se convertir. Je suis étonné et heureux de voir le nombre de gens qui me contactent pour me demander l'examen de conscience que j'utilise pour les retraites, que j'envoie évidemment dès qu'on me le demande par Internet, pour que les gens puissent faire une bonne confession générale. N'oublions pas que nous sommes à quelques jours de Pâques et qu'il est nécessaire que nous remplissions nos obligations par rapport à Pâques d'une façon ou d'une autre. Bon, si malheureusement vous n'avez pas de prêtre à votre disposition, et là c'est beaucoup de prêtres, et ça c'est bien bien dommage, refusent de recevoir leur pénitent sous prétexte du confinement. Moi-même, mon vieux confesseur de 83 ans refuse de me confesser actuellement parce que à cause du confinement. Voilà. C'est pas du tout comme ça que l'Église a agi pendant des siècles et des siècles. Heureusement que le bon Dieu est bon et m'a envoyé la visite d'un confrère qui j'ai pu me confesser pour Pâques, Deo Gratias. Donc je continue avec les textes des pères, ici c'est Saint Jérôme. Donc Jésus-Christ qui est cette pierre détachée de la montagne sans la main d'aucun homme et qui devient elle-même une grande montagne, est arrachée et jetée à la mer. Lorsque les apôtres tiennent aux Juifs ce langage justement mérité, nous allons vers les gentils parce que vous vous jugez vous-même indigne de la parole de Dieu. Vous refusez notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien, nous allons aux gentils. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ a passé toute sa vie publique justement à évangéliser les Juifs, comme les Juifs, dans leur immense majorité, hélas, ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer ses apôtres prêcher aux gentils. C'est tout l'apostolat de Saint Paul qui va partir justement en Grèce et après dans toute l'Europe de l'époque, le monde de l'époque. Notre Seigneur va envoyer ses disciples dans le monde entier prêcher justement aux gentils parce que, hélas, le peuple juif, refusant notre Seigneur Jésus-Christ, était devenu ce figuier maudit. Et nous aussi, mes bien chers frères, vous et moi, nous devenons un figuier maudit si nous restons dans le péché mortel. Un texte également important de Saint Bède le Vénérable, qui explique le verset 23. « Vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'hésite pas dans son cœur, mais s'il croit que tout ce qu'il dira arrivera, qu'il aura dit arrivera, il le verra arriver. » Voilà ce que dit Saint Bède, Bède le Vénérable, pour commenter ce verset. « Cette montagne, jetée dans la mer, peut aussi être la figure du démon à cause de son orgueil. » Cette montagne est arrachée de terre et jetée dans la mer à la parole de ceux qui sont forts dans la foi. Lorsque les saints docteurs prêchant la parole de Dieu, l'esprit immonde est chassé du cœur de ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Il lui est alors permis d'exercer la violence de sa tyrannie dans les cœurs des infidèles remplis de troubles et d'amertume, et il se déchaîne contre eux avec une fureur égale à la douleur qu'il éprouve de n'avoir pu tourmenter et perdre les premiers. Donc la montagne représente l'orgueil, pour expliquer la gravité, justement, la gravité du péché d'orgueil. Et donc, posons-nous cette question, est-ce que l'entrée de mon âme est libre? Ou est-ce qu'il y a un énorme rocher d'orgueil à l'entrée de mon âme qui empêche notre Seigneur Jésus-Christ de rentrer dans mon âme? Notre Seigneur Jésus-Christ respecte notre liberté propre, notre volonté propre. Si je ferme la porte de mon âme à double tour, si je maintiens une énorme pierre devant la maison qui empêche notre Seigneur Jésus-Christ d'entrer, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas faire sauter la pierre sans ma coopération. Il demande une coopération. Donc terminons ces commentaires. Je vais terminer le chapitre 11 aujourd'hui. Pour ceux qui prient, disent les pères, il faut distinguer soigneusement ceux qui ont cette foi parfaite qui opère par la charité. Une seule prière, une seule parole sortie de leur bouche peut transporter des montagnes spirituelles comme Saint Paul fit pour le magicien Elimas. Donc tout est possible avec la grâce du bon Dieu, à condition d'être en état de grâce. Je suis en état de grâce, je rétablis la connexion entre Dieu et moi. Je perds l'état de grâce, je perds cette connexion. Voyons les derniers versets de ce chapitre 11 de Saint Marc. Ils vinrent de nouveau à Jérusalem et comme Jésus se promenait dans le temple, les princes des prêtres, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité faites-vous ces choses et qui vous a donné le pouvoir de les faire ?» Et Jésus leur répondit « Je vous adresserai moi aussi une question. Répondez-moi, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, il s'agit de Jean-Baptiste ici, le baptême de Saint Jean-Baptiste, était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais les scribes raisonnaient entre eux, en eux-mêmes disant, si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tous regardaient Jean comme un vrai prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur répliqua, moi non plus, je ne vous dirai point par quelle autorité je fais ces choses. Donc notre Seigneur Jésus-Christ y montre l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui ont vu tous les signes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont vu ces miracles, qui savent très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa vie publique, a rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui représentaient le Messie et qui ne se convertissent pas. Remarquons, en haut de la page 6, qu'il est deux circonstances où l'on doit s'abstenir de découvrir la vérité à celui qui la cherche. Lorsqu'il est incapable de la comprendre, ou lorsque par le mépris ou la haine de la vérité, il est indigne qu'on la lui fasse connaître. Notre Seigneur Jésus-Christ va dire, aller jusqu'à dire qu'il ne faut pas jeter les perles aux pourceaux. Et donc, lorsque les âmes ne sont pas prêtes à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, il faut attendre. Pas la peine d'insister. Comme disait Saint François de Sales, c'est pas en tirant sur la fleur qu'on va la faire pousser plus vite. Et moi, je me rends compte très souvent en tant que prêtre, il y a des moments où il faut savoir patienter. On voudrait arriver à obtenir la conversion de telle personne, mais c'est Dieu qui convertit, c'est pas le prêtre. Hein. Vous et moi, on ne convertit personne. C'est Dieu qui convertit. Et qui utilise un prêtre ou un laïc comme instrument de conversion. C'est Dieu qui convertit. Donc ne jetons pas les perles au pourceau, ne cherchons pas à divulguer les mystères de la foi catholique à des gens qui sont incapables de les comprendre et qui ne veulent pas les comprendre. Au contraire, lorsque l'âme s'humilie et s'ouvre à la grâce, alors là, oui, là on peut rentrer dans l'âme et faire un travail magnifique. Donc, dernier commentaire des pères de l'Église. Saint Jérôme commente le verset du psaume 131. « J'ai préparé une lampe à mon Christ et je couvrirai de confusion ses ennemis. » Cette lampe couvre ces curieux d'obscurité, ce qui a fait dire à Dieu par la bouche du psalmiste « J'ai préparé une lampe à mon Christ et je couvrirai de confusion ses ennemis. » Donc, attention à être vraiment pour nous tous la lumière du monde. La lumière du monde. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie. Il faut annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, lumière de ce monde. Donc nous avons terminé, que la grâce du bon Dieu, terminé ce chapitre 12 de Saint Marc. Et si Dieu veut, donc pour le prochain mercredi, c'est un cours qui est destiné au mercredi 15 avril, vous pouvez l'écouter avant bien entendu. Mais le prochain cours donc sera préparé à partir du chapitre 12 de Saint Marc. Nous allons terminer par une prière. Oh, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.